profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelle et fiction imaginaire, enquête sur d'étranges affaires. Qu'est-ce qu'on est bien le soir sur CFM. Au programme, les nazis et les reliques de la Passion du Christ. Quand l'obscur essaie de s'approprier la force de la lumière. Thème que je développerai en deux parties. Mais d'abord, musique avec Pretty Woman. Que les nazis convoitaient les reliques de la Passion du Christ. Étonnant, non? Écoutons bien. Parmi les plus grands succès du cinéma figure en bonne place la saga des Indiana Jones, film d'aventure où nous assistons dans les premiers et troisièmes volets à une folle course mettant aux prises un archéologue américain avec des unités nazies dont la mission consiste à s'emparer d'objets mythiques, comme l'Arche d'Alliance ou le Saint Graal, destinés à donner l'invincibilité aux forces du Troisième Reich. Alors beaucoup pensent qu'il ne s'agit là que d'œuvres de fiction, sorties notamment de l'imagination d'un Steven Spielberg ou d'un George Lucas. Mais la vérité serait tout autre, car ces professionnels du cinéma ont été manifestement inspirés par des faits dont certains sont assurément historiques. N'oublions pas en effet que la Nonherbe, société créée le 1er juillet 1935 par Heinrich Himmler, le chef incontesté de la SS, avait été chargée de nombreuses opérations qualifiées de secrètes, au nombre desquelles figurent la recherche des hyperboréens, de l'entrée de la Gartha, ou encore de ces objets légendaires réputés contenir un pouvoir pour le moins surnaturel. Bien entendu, il est inutile de chercher ce genre d'informations dans les livres d'histoire, car le côté obscur, ésotérique du nazisme n'a jamais été véritablement étudié, sans doute en raison d'un cartésianisme qui se veut aujourd'hui despotique, au risque d'insulter la mémoire même de Descartes, bien qu'il existe des ouvrages. Pour ma part, on va se lancer dans une espèce d'enquête, sans tabou ni a priori. Je vous invite à cela, alors très succinctement. Et nous devons reconnaître que, des fois, les découvertes dépassent les scénarios les plus improbables. Un homme comme Himmler, qui avait essayé de recréer une sorte de table ronde dans son château de Wervelsberg à partir de l'élite du corps des SS, s'intéressa tout particulièrement au Saint Graal. Pour ceux qui ignoreraient encore ce qu'est le Graal, rappelons ici qu'il s'agit de la coupe dont Jésus-Christ se servit le jour de la scène et qui fut ensuite utilisée par Joseph d'Arimathie afin de recueillir le sang du crucifié. À noter que le mot Graal provient du bas latin gratal ou du terme roman grazal, qui désignait habituellement un vase. Nous savons même à quoi le Graal ressemblait, puisqu'il fut décrit comme étant de forme hexagonale et taillé dans une gigantesque émeraude, d'après la légende. Voilà un récipient d'une grande richesse que l'on imagine difficilement avoir pu appartenir à un simple charpentier. Et c'est d'ailleurs cette idée qui fut retenue dans le film d'Indiana Jones et la dernière croisade sortie sur les écrans en 1989, où le héros comprend qu'il doit porter son choix sur une coupe de facture modeste. Mais, c'est oublier que Jésus descendait par sa mère des rois d'Israël. D'ailleurs, si vous lisez les chronologies bibliques, c'est attesté. De fait, Marie était certainement d'essence royale, comme semble l'attester l'évangile apocryphe de Saint Jacques, qui date du IIe siècle et prétendument attribué à un demi-frère de Jésus, né d'un premier mariage de Joseph. Et voilà ce qu'on peut lire en extrait. Joachim, le père de Marie, était fort riche, et il présentait à Dieu de doubles offrandes. Sa femme Anne souffrait d'un double chagrin, et elle était en proie à une double douleur. La grande fête du Seigneur survint, et Judith, la servante d'Anne, lui dit « Jusqu'à quand affligeras-tu ton âme? Il ne t'est pas permis de pleurer, car voici le jour de la grande fête. Prends donc ce manteau et orne ta tête. Tout aussi sûr que je suis ta servante, tu auras l'apparence d'une reine. » Et voici que l'ange du Seigneur vola vers elle, lui disant « Anne, Dieu a entendu ta prière. Tu concevras et tu enfanteras. Anne mettra au monde Marie, et ta race sera célèbre dans le monde entier. » Et quand elle, Marie, eut accompli sa première année, Joachim donna un grand festin et il convia les princes, des prêtres et des scribes, et tout le Sénat et tout le peuple d'Israël. Le prince des prêtres vit devant lui Marie qui était de la tribu de David et qui était sans tache devant Dieu. Et il dit, « Tirez au sort laquelle filera du fil d'or et d'amiante et de fin lin et de soie et d'hyacinthe et d'écarlate, et la vraie pourpre, qui, chez les Romains, seuls les consuls, les triomphateurs et plus tard les empereurs eurent le droit de porter la pourpre. Et l'écarlate échurent à Marie par le sort, et les ayant reçus, elle alla en sa maison. » Fin de ce texte. Dès lors, on comprend pourquoi Ponce Pilate avait décerné le titre de roi de Juifs à Jésus-Christ. Selon l'évangile de Jean, Pilate fit graver une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». À cette parenthèse refermée, revenons donc au Graal, que Joseph d'Arimathie fut dû conserver avec la dévotion que l'on imagine. Après lui, d'autres personnes, apôtres ou patriarches, se chargèrent de garder jalousement ce vase si précieux, dans tous les sens du terme, jusqu'au jour où il tomba entre les mains des croisés qui furent supposés l'avoir découvert à l'an 1101 à Césarée, ville côtière d'Israël. On raconte que, lors du partage du butin, la coupe sacrée revint aux Génois, qui la déposèrent ensuite dans leur cité, où elle reposerait toujours. Et force est de reconnaître que la cathédrale de San Lorenzo, à Gênes, possède un très ancien récipient à six côtés, et de couleur verte, connu sous le nom de bassin sacré. En 1806, Napoléon fit porter cette pièce à Paris, afin d'être examiné par les experts de l'époque, que soient les professeurs Vauquelin, Guiton et Haïti. Ces derniers purent constater que l'objet en question n'avait pas été façonné dans une émeraude, mais avait été réalisé à partir de verre byzantin teinté en verre. Par contre, ils reconnurent que le bassin sacré remontait à l'époque d'Auguste et qu'il avait été par conséquent contemporain du Christ. Cependant, ce qui est considéré comme la plus belle pièce du trésor de la cathédrale de San Lorenzo n'a pas vraiment la forme d'une coupe, mais plutôt celle d'un plat. Aussi est-il loisible de penser qu'il ne s'agit pas là du véritable Graal. Comme on peut également apporter quelques crédits à cette légende qui veut que Joseph d'Arimathie ait lui-même amené le Saint-Calice en Occident afin de le soustraire aux diverses convoitises. On n'en sait pas trop grand-chose sur cette histoire, ce sont des rumeurs historiques, bien sûr. Et selon cette même légende, Joseph d'Arimathie aurait aussi fondé une communauté de gardiens, de type chevaleresque, chargée de protéger le Graal, mission qui aurait finalement échu au Qatar, puisque ces derniers sont censés avoir caché la précieuse coupe à Montségur. Tout ceci est bien évidemment difficilement vérifiable, je précise, nous sommes en pleine légende. Mais un homme y a suffisamment cru pour se lancer dans une quête longue de plusieurs années et attirer sur lui l'attention d'Himmler. Et donc nous arrivons à notre sujet. Il s'agissait d'Otto Rahn, un archéologue allemand quelque peu excentrique dont nous devons de rappeler ici l'histoire. Né à Michelstadt, en Allemagne, le 18 février 1904, Otto Rahn, tout juste sorti de l'adolescence, est un brillant étudiant, mais peut-être un peu trop idéaliste. Passionné de littérature médiévale, il choisit de consacrer sa thèse de doctorat à Wolfram von Eschenbach, un poète bavarois, ayant vécu à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle. Wolfram von Eschenbach est surtout connu pour avoir écrit un poème épique ayant pour thème la geste arthurienne et la quête du Graal. Perceval. En étudiant cet ouvrage, Otto Rahn se rend compte qu'il y a beaucoup de points communs entre les noms propres utilisés par le Meine Sänger, c'est-à-dire l'équivalent allemand du troubadour, et ceux qui marquèrent l'histoire du catharisme en Occitanie. Ainsi, il remarque que le château du Graal, le Mont Salvage, décrit par Wolfram von Eschenbach, ressemble étonnamment à Montségur, ne serait-ce qu'au niveau étymologique. De la même manière, dans Barzival, le premier roi du Graal se nomme Parilla, ce qui n'est pas sans nous rappeler le plus célèbre des seigneurs de Montségur, Raymond de Perella. Enfin, le principal héros de l'œuvre de Wolfram von Eschenbach, Barzival, dont le nom, suivant son propre auteur, signifie « qui tranche au travers », peut être rapproché de Raymond Roger Trencavel, le mot occitan Trencavel pouvant être traduit par « tranche-bien », vicomte de Carcassonne et du Razès, qui fut l'une des premières victimes de la croisade contre les Albigeois, le terme « albigeois » étant devenu synonyme de « cathare ». Donc, dans l'esprit d'Otto Rahn, il n'y a plus désormais aucun doute. Le livre de Wolfram von Eschenbach, sous l'habit de déguisement d'un roman, contient des données de première importance permettant de localiser le Graal, lequel ne peut se trouver que dans la région de Montségur, bien sûr. Comme l'écrivit Otto Rahn, Oui, seule la forteresse cathare de Montségur, dans les Pyrénées ariégeoises, peut avoir été le temple inviolable du Graal. À notre tour, nous serions tentés d'abonder dans le sens d'Autoran, car le Parzival a toutes les apparences d'une œuvre codée, chargée de symboles qui ne demandent qu'à être décryptés. Du reste, Wolfram von Eschenbach nous indique lui-même son appartenance, comme c'est bizarre, à une société secrète, lorsque cet écrivain de talent avoue qu'il ne sait ni lire ni écrire. Précisons que les francs-maçons, par exemple, ont l'habitude d'utiliser cette dernière phrase « Je ne sais ni lire ni écrire », notamment pour tester leur interlocuteur pour voir s'il appartient à la même confrérie qu'eux. C'est un code. Mais alors que la franc-maçonnerie n'est apparue qu'à la fin du XVIe siècle, souvenons-nous que Wolfram von Eschenbach a écrit ces mots au tout début du XIIIe siècle. Et l'auteur de Parzival d'ajouter au sujet de son ouvrage « Ce récit, je vais vous le dérouler sans me servir du moindre livre. Plutôt que d'entendre donner à cette histoire le nom de livre, j'aimerais mieux avoir la honte d'être exposé tout nu dans mon bain, à la vue de tous, sans le moindre morceau de toile. Je garderai pourtant une poignée de feuillage. » Malgré toute leur invraisemblance, ces précisions données par Wolfram von Eschenbach ne sont certainement pas anodines, et cette poignée de feuillage pourrait d'ailleurs nous mettre sur une piste, celle de l'homme feuillu. Qu'est-ce que donc que cela? En effet, notons que l'homme feuillu, ou l'homme vert, est une figure souvent représentée dans les édifices religieux bâtis entre le Xe et le XVe siècle, et que parfois viennent s'échapper de sa bouche des rameaux de verdure, voulant peut-être symboliser l'expression du Verbe et sa puissance créatrice. Autre ouvrage religieux, le Coran, ne manque pas non plus d'évoquer ce personnage dans la sourate 18, Al-Kahf, la caverne, qui rappelle la rencontre de l'homme feuillu avec Moïse. Cependant, c'est un long hadith, communication orale de Mahomet, rapporté par l'imam al-Bukhari, qui nous livre véritablement son identité. Al-Khidr, ce mot arabe signifiant l'homme vert, le verdoyant, ou encore le vert. Le même hadith nous rappelle ces mots prononcés par Al-Khidr lorsqu'il s'adresse à Moïse. « Moïse, j'ai une connaissance qui me vient de Dieu, que j'ai reçue et que tu ne possèdes point. » Cette connaissance dont il était fait état, n'est-ce pas la gnose, cette connaissance du divin, qui a toujours été enseignée sous le sceau du secret? Point d'interrogation. L'auditeur nous pardonnera cette digression qui a pourtant ici toute sa place, étant donné qu'une partie de l'histoire de Parzival se déroule au Moyen-Orient. Et nous retrouvons maintenant Autoran, qui n'hésite pas à livrer ses découvertes dans un ouvrage ayant pour titre « Croisade contre le Graal », paru en 1933. Alors si ce livre n'est pas à proprement parler un succès commercial, il est rapidement devenu le livre de chevet d'Himmler, lequel ne tarde pas à convoquer Autoran dans son bureau. Fort aimablement reçu par le Reichsführer SS, Autoran, qui doit faire face à quelques déboires financiers, se voit proposer de façon inespérée des sommes astronomiques pour l'époque qui lui permettront de poursuivre ses recherches sans se faire le moindre souci. Himmler met toutefois une condition à sa générosité. Autoran doit entrer dans la SS. Voyant innocemment dans cet ordre une sorte d'élite presque chevaleresque, Otto accepte sans se faire trop prier. Le 12 mars 1936, Autoran endosse donc pour la première fois l'uniforme noir et va grimper très rapidement dans la hiérarchie au point d'être nommé Obersturmführer, l'équivalent de lieutenant. En 1936, quand Paul Ladame, journaliste français, se rend à Berlin pour couvrir les Jeux Olympiques, il n'en croit pas ses yeux en voyant son ami Otto habillé en SS. L'interrogeant sur ce qui a pu le conduire à devenir un des sbires de Himmler, Autoran lui fait cette réponse laconique « Mon cher Paul, il faut bouffer ». Mais pour être sous la protection du Reichsführer SS, Otto Hahn n'en a pas moins des obligations. Himmler attend de lui l'écriture d'un nouveau livre. Ce sera la cour de Lucifer, qui sortira en 1937, et surtout qu'il trouve le Graal. Cependant, et malgré tous ses efforts, Otto Hahn ne parvient pas au terme de sa recherche. Il sait qu'il brûle, qu'il ne lui faudrait qu'un peu de chance pour parvenir à l'une des plus grandes découvertes de tous les temps. Mais la Providence semble rester sourde à ses appels. Là d'attendre, Himmler envoie Otto Hahn de Lannenherbe et l'expédie au camp de concentration de Dachau comme simple gardien. C'est là, dans ce lieu horrible, qu'Otto peut prendre toute la mesure de la monstruosité de l'ordre noir. En outre, l'étau commence à se resserrer autour de lui. On le soupçonne d'être de mœurs homosexuelles, ce qui déplaisait fortement au SS. Et surtout, ses supérieurs s'étonnent qu'il n'ait toujours pas délivré son certificat de pureté raciale. Or, Otto est juif. Il est juif par sa mère, Clara Hahn, née Hamburger. Son grand-père maternel, Siméon Hamburger, était aussi juif, et on peut ainsi remonter sur des générations et des générations. Sachant qu'il sera bientôt démasqué, Otto Hahn préfère prendre les devants, et le 28 février 1939, il écrit à Himmler pour lui demander de le radier de la SS. Le Reichsführer SS acquiesce à sa requête et le licencie avec effet immédiat. Quelques jours plus tard, le 13 mars 1939, le corps d'Otto Hahn est retrouvé en Autriche, sur le glacier de l'Empereur. Est-il mort par accident? S'est-il suicidé? Ou a-t-il été exécuté? On pourrait croire que la disparition d'Otto Hahn est entraînée de facto l'abandon de la quête du Graal. Sauf que le Reichsführer SS n'a jamais oublié son projet, même en cette année 1944 qui voit la guerre prendre un tournant dramatique pour les Allemands. Grâce aux informations laissées par l'archéologue, Himmler ne désespère pas de mettre la main sur le Saint-Calice. En outre, une prophétie, celle de Guillaume Bellisbast, dernier parfait cathare à avoir péri sur le bûcher en 1321, laisse présager que l'on touche enfin au but. En effet, selon les dires de Bellisbast, je cite en occitan, « Al cap del 700, vendergera l'ou de laurel. Au bout de 700 ans, le laurier reverdira. » Or, au mois de mars 1944, très exactement, 700 ans se sont écoulés depuis le martyre des parfaits cathares de Montségur. Himmler sait donc que le moment est venu d'agir et qu'il n'y a pas un seul instant à perdre. Aussi envoie-t-il Skorzeny et ses commandos dans les Pyrénées. Une fois arrivé sur place, Skorzeny et ses hommes commencent par établir un campement au pied de la montagne Saint-Barthélemy, à l'endroit exact où les croisés en 1244 s'étaient installés. Après avoir éliminé les endroits déjà exploré par Otto Hahn, il ratisse les environs de Montségur de façon méthodique. Et finalement, Skorzeny découvre une grotte qui était restée dissimulée, puis une caverne fortifiée au col de la Peyre. Nous sommes le 15 mars 1944, soit la veille de la célébration de l'anniversaire du bûcher de Montségur. Aussitôt, Skorzeny envoie un télégramme à Himmler, se résumant en un seul mot, Eureka. Le télégramme n'est pas signé de son nom, mais de son surnom, le Balafré. La réponse du Reichsführer SS ne se fait pas attendre. En voici les termes. Bien joué, félicitations. Regardez le ciel demain à midi. Attendez notre arrivée. Effectivement, le lendemain, un avion allemand survole Montségur, dessinant dans le ciel à l'aide des fumées dégagées par l'appareil, une énorme croix celtique. Mais qu'a donc trouvé Skorzeny? Il apparaît que ce ne soit pas le Saint Graal, mais un trésor beaucoup plus conséquent, le trésor du roi Salomon. On fait une pause avant de poursuivre cette enquête assez cette enquête historique qui est quand même assez bizarre, n'est-ce pas? Mais signature de l'ordre noir SS, bien sûr. Bien sur CFM Radio et je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à vous parler de cette enquête historique avec toile de fond le terrible ordre noir SS qui avait pour mission secrète de mettre main basse sur tout ce qui était un petit peu ésotérique, magique et notamment eh bien les reliques du Christ. Alors, je vous ai parlé du Graal, et maintenant je vais vous parler d'un autre objet. Alors, nous avons maintenant un autre objet fameux convoqué par les nazis, c'est la Sainte Lance, ou la Lance de Longinus. Alors, de quoi s'agit-il exactement? De l'arme ayant servi à s'assurer que le Christ était bien mort sur la croix. Parmi les évangiles canoniques, Un seul mentionne cet épisode pourtant crucial. C'est l'évangile selon saint Jean. Alors, je vous livre ici un extrait de cet évangile. C'est le chapitre 19, versets 31 à 37. Comme c'était la préparation, pour ne pas laisser les corps sur la croix le sabbat, car c'était un grand jour que ce sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux suppliciés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec Jésus. Arrivés à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté d'un coup de lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a témoigné, et son témoignage est vrai, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé pour que s'accomplit l'Écriture. Aucun de ses os ne sera brisé, et un autre passage dit encore, ils regarderont celui qu'ils auront transpercé. Par contre, l'apôtre Jean ne précise pas le nom du légionnaire qui mania la lance. Seul l'évangile apocryphe de Nicodème ne livre son nom dans cet extrait traduit par Pierre-Gustave Brunet. Un soldat nommé Longin, prenant une lance, lui perça le côté et il en sortit du sang et de l'eau. Mais que ce soit l'évangile selon saint Jean ou l'évangile de Nicodème, qu'on appelle aussi Acte de Pilate, aucun de ces deux textes ne nous précise l'endroit exact où Jésus-Christ fut frappé. Était-ce au côté gauche ou au côté droit? La logique voudrait que la lance lui perça le cœur et que le Christ fût touché au flanc gauche. C'est du reste l'avis de Bernard de Clairvaux qui n'hésite pas à écrire en s'adressant directement à Jésus-Christ « Le fer a eu accès à ton cœur pour qu'il sache désormais compatir à nos infirmités. » Guillaume de Saint-Thierry, moine cistercien du XIIe siècle, va encore plus loin en s'exprimant de cette manière. « C'est tout entier que je désire voir et toucher plus encore, m'approcher de la sacro-sainte blessure de son côté, de cette porte de l'arche faite au flanc, non pas seulement pour y mettre mon doigt ou ma main, mais pour entrer tout entier jusqu'au cœur même de Jésus. » Bon, voilà, c'est une exaltation poétique et mystique de ces religieux. Pourtant, dans les représentations de Jésus crucifié, on s'obstine à faire figurer la plaie sur son côté droit, ce qui deviendra d'ailleurs le modèle à suivre à partir du XIIIe siècle. Or, à cette époque, nous savons que le Saint-Suaire est en France, ayant été récupéré par les Templiers français lors du sac de Constantinople survenu en 1204. Il s'agit là d'un fait historique confirmé par l'historienne Barbara Frahl, qui eut accès aux archives secrètes du Vatican. Si nous nous référons au linceul du Christ, c'est parce que cette incroyable pièce de tissu offre à notre vue une image acheiropoïète, ce nom barbare. Ça veut dire une image non faite de main d'homme, représentant ni plus ni moins que le corps du Christ. Cette image est apparue sur le linceul lorsque le corps du Christ s'est transformé en corps de lumière ou corps de gloire. À noter que l'énergie dégagée lors du phénomène équivalait, selon les estimations, à quelques 50 millions de volts. Non seulement l'image du Saint-Suaire constitue une preuve formidable de la résurrection du Christ, mais encore nous livre-t-elle de précieuses indications sur les tourments subis par Jésus. Par exemple, c'est grâce au Saint-Suaire si les Templiers ont découvert le mode de crucifiement employé par les Romains, lesquels utilisaient deux clous pour fixer les poignets et seulement un pour tenir les deux pieds. Comme en attestent certaines représentations, notamment laissées dans le donjon de Coudray par les pauvres chevaliers du Christ enfermés à Chinon. De la même manière, les Templiers ont compris que le coup de lance avait été porté au flanc droit du Christ. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder l'image du linceul qui, ne l'oublions pas, a tous les aspects d'un négatif photographique. Or, sur cette image, le sang semble avoir coulé sur le côté gauche du crucifié. Par conséquent, et en prenant en compte l'effet miroir de l'image, c'est bien au côté droit que le Christ a été frappé d'un coup de lance. « Ces précisions apportées, essayons d'en savoir un peu plus sur le légionnaire qui porta maintenant le coup de lance. En fait, il aura fallu attendre la Légende dorée, ouvrage écrit au XIIIe siècle par le dominicain Jacques de Voragine, pour en savoir un peu plus sur ce soldat romain. D'après le chroniqueur italien, Longin fut le centurion qui, debout avec les soldats près de la croix, par l'ordre de Pilate, perça le côté du sauveur avec une lance. En voyant les miracles qui s'opéraient, le soleil obscurci et le tremblement de terre, il crut en Jésus-Christ, surtout depuis l'instant où, selon le dire de certains auteurs, ayant la vue obscurcie par maladie ou par vieillesse, il se frotta les yeux avec du sang de notre Seigneur coulant le long de sa lance, car il vit plus clair tout aussitôt. Renonçant donc à l'état militaire et instruit par les apôtres, il passa 28 ans dans la vie monastique à Césarée de Cappadoce et convertit beaucoup de monde à la fois par sa parole et ses exemples. C'est une tradition chrétienne, bien sûr. Une autre tradition chrétienne veut que le centurion romain se soit appelé Gaius Cassius, le nom de Longinus lui étant été attribué en considération de sa lance. En effet, Longinus, ou Longin en français, provient du grec ancien « longi » signifiant « lance ». Il reste maintenant à se demander ce qu'est devenue la lance de Longinus après la disparition de ce dernier. Vénérée par les premiers chrétiens, la sainte lance ou lance du destin circule un temps en Égypte où elle tombe entre les mains d'un autre centurion du nom de Mauritius. Ce soldat romain, originaire de Thébaïde, et connu plus tard sous le nom de Saint Maurice, va à son tour se convertir au christianisme et périra en martyr à la fin du IIIe siècle. Par la suite, l'objet précieux sera détenu par l'empereur Constantin Ier, qui jouera un rôle considérable dans le développement du christianisme, même si celui-ci lui devra quelques dérives par rapport au christianisme des origines. Ça, c'est un autre sujet. C'est aussi à partir de ce moment que la lance de Longinus acquit la réputation de rendre invincible celui qui la possède. Ainsi, c'est après avoir brandi le saint objet devant le front de ses troupes que l'empereur Théodose Ier parvient à stopper les Goths. De même, Attila et ses Huns subissent une cuisante défaite au champ catalaunique et les Arabes sont arrêtés à Poitiers, toujours semble-t-il grâce à la sainte lance. Plus tard, en l'an 800, à l'occasion du couronnement de Charlemagne, en tant qu'empereur, le pape Léon III remet à ce souverain incontesté la lance vénérée. Dès lors, Charlemagne remportera 47 victoires de façon consécutive. On retrouve ensuite la lance de Longinus entre les mains du roi Henri l'Oiseleur, qui la transmettra à son fils Othon le Grand. La lance restera ainsi en la possession des héritiers du Saint-Empire romain germanique jusqu'en 1424, date à laquelle elle fut transférée à Nuremberg. Mais les vicissitudes de l'histoire, comme l'avance des troupes françaises en 1796, conditionneront de nouveaux déplacements. Désormais propriété des Habsbourg, elle reposait à Vienne quand Hitler décida de s'en emparer. C'est en 1908 qu'Adolf Hitler en entendit parler pour la première fois. Alors qu'il visitait à Vienne le palais-musée de Hofburg, il s'arrêta un instant devant un morceau de fer antique ayant la forme d'une pointe de lance. Voyant l'intérêt de ce visiteur, un guide s'approcha et lui révéla qu'il s'agissait de la fameuse lance de Longinus. Par la suite, Hitler eut connaissance de cette légende qui veut que celui qui la possède ait la destinée du monde entre ses mains. Il n'en fallait pas plus pour exciter la convoitise de celui qui allait devenir le plus grand dictateur de tous les temps. Parvenu au pouvoir, Hitler n'a pas oublié la sainte lance. Aussi, lorsque les troupes allemandes pénétrèrent en Autriche le 12 mars 1938, dans le but de réaliser l'Anschluss, a-t-il pris toutes les précautions nécessaires afin que l'objet de ses rêves ne puisse être emporté? Quelques heures avant l'annonce du passage de la frontière par l'armée allemande, un officier SS en civil a pris position devant la vitrine, derrière laquelle est exposée la lance de Longinus. À la nouvelle de l'arrivée des Allemands, il s'empresse d'enfiler son uniforme et dégaine son arme. Si quelqu'un essaie de s'emparer de la lance du destin, il a pour ordre de l'abattre. Deux jours plus tard, Hitler arrive à Vienne. Sa première visite sera, on s'en doute, pour le musée des Habsbourg. Sans attendre, le fourreur fait transporter la lance et le reste du trésor, les joyaux impériaux, à Nuremberg. Ces derniers seront retrouvés à la fin de la guerre, plus précisément le 7 août 1945 par le lieutenant Walter Horn. D'abord saisies par le gouvernement américain, ces pièces inestimables seront finalement restituées en Autriche le 4 janvier 1946 et retrouveront leur place dans le palais-musée d'Hofburg. Néanmoins, une question peut se poser. La lance possédée par les Habsbourg était-elle véritablement la Sainte Lance? Une expertise effectuée au XXe siècle révéla qu'il s'agissait en fait d'une lance lombarde du VIIIe siècle. Une autre expertise réalisée, celle-ci en 2003, donna une autre date, le VIIe siècle. De toute évidence, et aussi belle que soit la lance autrichienne, la lame a été recouverte d'une plaque d'argent et d'une plaque en or pour retenir, fixé contre elle, un soi-disant clou de la crucifixion. Il ne peut s'agir de la lance de Longinus. Dans ces conditions, où se trouve la véritable lance? Une pointe de lance réputée avoir été celle qui pénétra le côté du Christ apparut à Constantinople au début du 7e siècle. Elle fut plus tard vendue à Louis IX, qui la fit installer dans la Sainte-Chapelle à Paris. Malheureusement, la Révolution passa par là et fut à l'origine de sa disparition. S'il s'agit bien ici de la Sainte Lance, et que celle-ci fut détruite par la folie révolutionnaire, alors nous ne pouvons que regretter la perte d'un objet aussi extraordinaire. Ainsi que nous venons de le voir, les nazis, cet ordre noir, manifestèrent un très vif intérêt pour tous les objets sacrés de notre monde, que ceux-ci aient joué un rôle dans la passion du Christ ou qu'ils provinssent d'autres temps et d'autres civilisations. Sans doute croyaient-ils pouvoir tirer de ces pièces uniques un pouvoir magique qui leur assurerait la domination du monde. Car aussi extravagant que cela puisse paraître, les nazis et les sociétés secrètes qui les entouraient attendaient beaucoup des forces surnaturelles. Et pour y avoir accès, peu importe le support, que celui-ci soit originaire du passé proto-historique de l'Allemagne, par exemple des pierres portant des inscriptions runiques, ou qu'il appartienne à d'autres peuples, notamment le peuple juif. En effet, si les nazis voulaient se débarrasser des juifs, ils cherchèrent dans le même temps à s'emparer de leurs objets les plus mythiques. Ainsi pouvons-nous présumer que si Skorzeny trouva bel et bien le trésor du roi Salomon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se serait bien gardé de détruire la menorah pour récupérer le métal précieux par exemple. Mais alors qu'est devenu ce célèbre chandelier? La chute du Troisième Reich étant survenue plus vite que prévu, Skorzeny s'en serait-il servi pour préserver sa vie, sa liberté, en quelque sorte acheter sa liberté? Et si la menorah a effectivement été utilisée comme monnaie d'échange, qui l'a donc récupérée? Sont-ce les Américains? C'est possible quand on connaît l'opération Paperclip, notamment la récupération de savants allemands pour leur projet. Il se pourrait aussi que, en ce qui concerne ces objets sacrés, ils aient mis main basse dessus. Mais le doute demeure. Quoi qu'il en soit, il reste encore beaucoup de choses à découvrir dans cette affaire qui n'a pas fini de faire couler de l'encre. Bien sûr, le temps me manque pour vous parler de l'Arche de l'Alliance et du trésor des Templiers, mais je vous renvoie à un ouvrage qui explique tout ça, de Sidney Kilpatrick, et qui s'intitule « Les reliques sacrées d'Hitler sur la piste des secrets ésotériques du Reich ». Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis bien sûr, pour une autre histoire mystérieuse la semaine prochaine.
CFM à Villefranche, 90.2, 90.2.
Somebody tell my father that I died. Somebody tell my mother that I cried. Death falls so heavy on my soul. Death falls so heavy makes me moan. Somebody tell my father that I died. Somebody tell my mother that I
somebody tell